Bonjour à toutes et à tous. Nous allons continuer avec le même thème d'adoration et nous allons écouter la parole de Dieu. Je vous demande de vous tourner avec moi dans vos Bibles, l'évangile de Matthieu, chapitre 1. Nous allons lire à partir de versets 18 à 25. Nous avons déjà entendu ce passage, la lecture de ce passage. Nous allons lire l'évangile de Matthieu, chapitre 1, à partir de versets 18 jusqu'au 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Donc, Emmanuel, Dieu avec nous, est le thème d'adoration de ce matin. Même si nous connaissons bien ce nom particulier de Dieu, Emmanuel qui signifie Dieu avec nous, nous entendons et parlons de ce nom merveilleux pendant le temps où nous nous préparons à célébrer la naissance de Christ, Noël. Et c'est dans le verset 22, la deuxième partie, ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Donc le prophète, c'est Isaïe. Donc nous allons lire de Isaïe chapitre 7. Nous allons lire à partir de verset 10 jusqu'au 17. Donc Isaïe chapitre 7, le verset 10 jusqu'à 17. L'Éternel parla de nouveau à Achaz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans le lieu élevé. » Achaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Verset 13, Isaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes ? Que vous lassiez encore celle de mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal, et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père des jours tels qu'il n'y a point eu depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda, entre parenthèses, le roi de Assyrie. Quand Matthieu a écrit son évangile, le Saint-Esprit l'a inspiré à appliquer la parole de prophète Isaïe qu'on vient de lire à Jésus-Christ. Donc Matthieu 1, 23 est l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe. Mais que signifie la parole d'Isaïe pour lui et pour les gens de son époque, son temps? Plusieurs prophètes dans la Bible ont plusieurs accomplissements, un accomplissement pendant le temps où la prophétie a été prononcée et un accomplissement final en Jésus-Christ. Donc, toutes les prophéties, il y a deux temps. Le fait que Isaïe 7,14 soit suivi de versets 15 à 17, que ne s'applique pas à Jésus-Christ, signifie que Isaïe avait une autre pensée d'une femme, un autre enfant. Mais qui? L'interprétation la plus probable est que Isaïe, qui a prophétisé à la maison royale de David, avait à l'esprit une vierge célibataire dans la famille royale qui allait bientôt se marier et avoir naissance, qui confirme avoir un enfant, bien que son enfant ne soit pas littéralement Emmanuel. Dieu avec nous, sa naissance qui confirmerait la parole de Dieu par son prophète Isaïe, montrerait que Dieu était avec son peuple. À l'époque d'Isaïe, le peuple de Dieu craignait que la puissante armée assyrienne n'attaque. Mais Dieu voulait leur montrer qu'il avait le contrôle total, le contrôle souverain sur toutes choses. Même si le manque de confiance du roi Akaz en Dieu conduirait finalement à l'attaque d'Assyrie contre Israël, Dieu voulait aussi montrer qu'en fin de compte, le Messie, Jésus-Christ, viendrait traiter non seulement de nos ennemis terrestres, mais aussi du péché et de ses conséquences. Donc, Emmanuel, Dieu avec nous, qu'y a-t-il de si important dans un nom? Qu'y a-t-il de si important dans un nom? Dieu est Dieu. Il n'est pas homme pour avoir un nom, n'est-ce pas? Et tous les êtres humains, nous avons besoin d'avoir un nom. Sinon, nous ne serons pas identifiables. Les hommes ont besoin de noms pour être identifiés. Mais Dieu est connu de l'homme par la façon dont il se révèle. Les noms sont importants parce qu'ils sont une méthode d'auto-révélation. Le nom de Dieu qu'on trouve dans la Bible, c'est une méthode d'auto-révélation. La façon dont les différents noms et titres sont utilisés parle de relations que nous avons avec notre Dieu. Même si nous accordons une grande importance aux noms et aux titres aujourd'hui, il était beaucoup plus important pour les hommes et les femmes de l'ancien Proche-Orient à l'époque biblique. Pour eux, l'existence même d'une chose était liée à la révélation de son nom. En psaume 9, verset 10, nous lisons ainsi, « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Donc, nous voyons une relation avec le nom de Dieu. Et aussi en Proverbe 18 et 10, nous lisons « Le nom de l'Éternel est une tour forte. » Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Donc, le psalmiste, quand il dit le nom de l'Éternel comme une tour forte, il sait ce que Dieu il était pour lui, ce que Dieu il a révélé pour lui. Et donc, encore à Jérémie 23, 6, « Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. » Donc, Jérémie, il dit, « Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. » Et certainement, chacun ici dans la salle, ils sont connus Dieu par un nom. Dieu, c'est le même, mais Dieu, il est connu pour chacun par un nom, par notre rencontre, par la révélation. Notre Seigneur Jésus a reçu le nom des noms au-dessus de tous les noms, que chaque genou s'incline et que chaque langue confesse à la gloire de Dieu. Dans Isaïe, on peut lire Isaïe 9, 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Il serait utile de remarquer ici que dans ce verset, nous voyons « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Un enfant nous est né, mais le Fils nous est donné. Dieu le Père a donné son Fils unique à Noël. Le Père éternel est aussi le Fils éternel. Cela fait partie du mystère merveilleux de la Sainte Trinité. Tous ces noms merveilleux qui lui sont donnés plein de sens, ils ne peuvent tout simplement pas être comptés comme un seul. Dieu est connu sous différents noms dans la Bible. Un commentateur en a compté plus de 63 trouvés dans les Écritures. Cela semble beaucoup, mais Dieu est si impressionnant que le nombre de noms que nous pourrions utiliser pour lui décrire est aussi infini qu'il est. Le psalmiste, dans son psaume 148, verset 13, il dit « Qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. » À l'époque de l'Ancien Testament, un nom n'était pas seulement une identification, mais aussi une identité. Plusieurs fois, une signification particulière a été attachée au nom. Le nom avait, entre autres fins, un but explicatif. Par exemple, le nom Nabal, dont le nom signifie « fou ». Nabal est son nom et sa femme Abigail, elle dit à David, « Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie car il est comme son nom. » Tout au long de l'Écriture, Dieu se révèle à nous à travers de ses noms. Quand nous étudions ce nom qu'il nous révèle dans la Bible, nous comprendrons mieux qui est vraiment Dieu. La signification derrière le nom de Dieu révèle la personnalité centrale et la nature de celui qui les porte. Donc nous allons voir un peu sur le sens d'Emmanuel, Dieu avec nous. Le psalmiste dit, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre, celui qui a fait cesser combat jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est le psaume 46, versets 8 à 11. Le psalmiste a utilisé une phrase semblable à « Dieu avec nous ». Quand il a déclaré « Le Seigneur des armées est avec nous ». Le psalmiste a annoncé sa confiance dans la capacité de Dieu à délivrer son peuple de ses ennemis. Dans Isaïe 7, 14, le nom propre Emmanuel désigne l'enfant qui symboliserait la présence de Dieu avec son peuple. Et la présence de Dieu n'était pas seulement destinée à réconforter son peuple, mais à le délivrer de son péché. Alors que beaucoup de gens, à l'époque de Jésus, s'attendaient à ce qu'il délivre Israël de la domination romaine oppressive. La mission de Jésus fournirait les moyens pour lesquels il serait délivré de la domination du péché et des conséquences éternelles. C'est pourquoi le peuple juif était déçu quand il voyait que Jésus il n'est pas venu pour les libérer de l'esclavage romain. Donc, pendant que nous méditions ce sens Dieu avec nous, nous devrions aussi voir notre position aujourd'hui, notre situation aujourd'hui. Et l'homme, il est loin de la présence glorieuse, il est parti loin de la présence glorieuse de Dieu. Le nom Emmanuel n'apparaît que 3 fois dans la Bible, mais la grande vérité de Dieu avec nous sature l'écriture de la Genèse à l'Apocalypse. Nous voyons d'abord Emmanuel comme Dieu avec Adam. Le Seigneur Dieu marchant dans le jardin d'Éden, dans la fraîcheur du jour, alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Genèse chapitre 3. Les créateurs communiant avec la créature jusqu'à ce jour terrible où le péché entra dans le monde et la mort, qui est le symbole de la séparation par le péché. Et c'est pourquoi nous lisons en Romains 5, 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et en Genèse 3, 23-24, et l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivait la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et quand l'homme il a péché, le péché ne peut pas être dans la présence de Dieu, sainte présence de Dieu. Donc Dieu il chassa l'homme loin de sa face, et il a mis en garde les chérubins qui agitent une épée flamboyante. C'est la grâce de Dieu qu'on voit ici, que Dieu il n'a pas laissé l'homme accès à l'arbre de la vie. Par la suite, les interactions de Dieu avec l'homme étaient généralement plus éloignées. Jéhovah est descendu sur le Sinaï avec le feu, une montagne qui ne pouvait même pas être touchée. Et quand les peuples sont sortis du pays d'Égypte, ils campaient dans le désert. Et Moïse, Dieu l'appelle Moïse pour venir rencontrer. Et on voit la montagne qui ne pouvait même pas être touchée par le peuple. Je pense que nous devrions lire ce passage maintenant pour vraiment sentir de quel état un pécheur tenait devant Dieu. Donc, on peut lire ça dans je n'ai pas noté le chapitre. C'est en Exode. Je vais lire ce passage pour vous, désolé. C'est en Exode, vous pouvez trouver après. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu du milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Exode 19, merci frère. Verset 18. Donc le verset 19, Exode 18, 19. Ok, Exode 19, chapitre 19, verset 19. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Verset 20. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que le sacrificateur qui s'approchait de l'Éternel se sanctifie aussi, de peur que l'Éternel ne le frappe de mort. Le verset 23, Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous as fait la défense expresse en disant, « Fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. » L'Éternel lui dit, « Va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que le sacrificateur et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. » Donc ici, l'homme, il était mis dans le jardin d'Éden, il était dans la sainte communion avec Dieu avant le péché. Mais après le péché, Dieu, il a mis une limite, puisque l'homme pécheur ne peut pas approcher de Dieu. Et nous voyons que la punition était la mort. Si l'homme, il approche Dieu trois fois saint, la punition, c'était la mort. La grâce de Dieu a encore descendu vers l'homme d'une façon toujours moins personnelle dans la colonne de nuée du jour, le jour, et le feu, la nuit. Et moins accessible, seul le souverain sacrificateur Lévitique pouvait entrer en présence de Jéhovah et seulement une fois par an. Nous lisons en Lévitique 16, versets 31-34. Donc, après le péché, l'homme, il ne peut pas, il n'avait pas le libre accès à Dieu. La communion était rompue et l'homme, pécheur, il ne peut pas accéder à Dieu comme il l'avait auparavant. Et pourtant, Dieu, à cause de sa grande bonté, Dieu a mis l'éternité dans notre cœur. Comme dit Ecclésias, il a mis l'éternité dans notre cœur, donnant à chaque personne un profond désir de le connaître intimement. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour nous, Dieu leur ayant fait connaître, dit Romains 1:19. Mais il ne suffit pas de savoir que Dieu est là-haut ou quelque part. Nous devrions savoir que Dieu est descendu là où nous sommes, qu'il sait où nous vivons, qu'il connaît notre nom, qu'il se soucie de nous, qu'il a marché dans cette vallée solitaire que nous parcourons. Donc, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu lointain, mais il a descendu sur la terre. Quelqu'un qui disait que ce n'est pas une grande chose que l'homme il marcha sur la lune. C'est la chose merveilleuse est que Dieu marcha sur cette terre. Le désir ardent de Dieu de vivre avec son peuple. On voit Dieu il a voulu vivre avec son peuple, il voulait rétablir cette communion qui était rompue à cause de nos péchés. Même dans l'Ancien Testament, avant la pleine révélation d'Emmanuel, dans Matthieu 1:23, nous voyons que le cœur de Dieu est d'être avec son peuple. Et ainsi, la phrase « Je serai avec toi » apparaît 9 fois dans l'Ancien Testament. « Je serai avec toi ». En Genèse 31:3, nous lisons « Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité et je tiendrai le serment que je fais à Abraham, ton père. C'est la promesse de Dieu qui était donnée à Isaac. Et encore, nous lisons en Genèse 31, 3, « Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Et encore en Deutéronome 31, 23, « L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Noun. Il dit, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner. » Et je serai moi-même avec toi. Vous voyez combien de fois Dieu il dit que je serai avec toi. Je serai moi-même avec toi. Et encore à Josué 1,5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Encore à Josué 3,7, l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout l'Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Dieu l'a dit à Gédéon, à Juges 6,16. Encore à Salomon, un roi 11,38, « Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David. » Et je te donnerai Israël. 1 Roi 11, 38. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Isaïe 43, 2. Vous voyez combien Dieu, on voit le désir de Dieu d'être avec ses enfants, avec son peuple. Dieu, il a répété énième de fois qu'il sera avec nous. Il sera avec nous. Ce serait toujours un mystère pour nous pourquoi Dieu ne nous a pas abandonnés dans nos péchés et nos perditions. Et il est venu nous chercher où que nous soyons. Dieu leur aurait pu créer une autre humanité. Dieu leur aurait pu faire autre chose avec les anges. Mais ça restera une question. Mais pourquoi Dieu n'a pas abandonné dans nos péchés et dans notre perdition? Mais il est venu nous chercher où que nous soyons. Même dans notre désobéissance à lui et au point de crucifier son fils sur la croix. Nous étions partis très loin pour crucifier son fils unique sur la croix, mais Dieu ne nous a jamais abandonnés. Dans la parole, nous lisons, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. L'humanité déchue avait été perdue dans le ténèbre et le péché et n'avait même pas le désir ardent de la communion perdue avec ton Dieu. On n'était même pas conscient que nous avons perdu cette communion avec Dieu. Perdu et perdu dans la perdition pour toujours. Mais c'est Dieu qui est descendu à la recherche des perdus. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son propre image, à l'image de Dieu. Il ne devait pas Il ne devait pas être perdu. Il était trop précieux pour lui pour être perdu. Et c'est pourquoi il a donné son fils unique. Et sans l'effusion de son précieux sang, la communion perdue ne serait pas établie. Sans l'effusion de son précieux sang, la communion perdue ne serait pas établie. Ô pécheurs, ne reconnaîtriez-vous jamais votre préciosité à votre Seigneur et Sauveur? Combien nous sommes précieux à ses yeux, qu'il est venu nous sauver en donnant son Fils sur la croix. Je considère qu'il serait utile de voir la prière de Jésus avant sa mort sur la croix pour ses disciples et pour ceux qui placeraient leur foi en Dieu. Ces paroles de notre Seigneur révèlent le cœur de Dieu depuis l'éternité. Tournez avec moi en Jean chapitre 17, on va lire quelques versets. Jean chapitre 17, on va lire à partir de verset 21 jusqu'à 23, et puis 24, non, on va lire à partir de 21 jusqu'à 26. Jean chapitre 17, verset 21. Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jésus n'aurait pas pu prier cette prière si ce n'était le désir de la volonté de Dieu trinitaire. Le Père, Dieu le Père, il voulait cette communion avec nous. Et Dieu l'Esprit, il voulait la même communion avec nous. Et Jésus-Christ, il a désiré la même communion avec ses disciples et enfin avec nous, avec tous ceux qui mettront leur foi en lui. Et le verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire et la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Vous voyez combien c'est clair le cœur de Dieu dans ce passage, dans son prière, dans sa prière. Et il dit que je leur ai fait connaître ton nom. Son nom, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Il a montré que Dieu, il veut habiter parmi son peuple. Même quand le peuple d'Israël, quand Dieu il ordonna à Moïse de construire un tabernacle, il a dit, je veux habiter au milieu de vous. Vous savez, si vous voyez comment c'était, il y avait quatre tribus dans chaque côté. Donc il y avait trois tribus dans chaque côté. Donc, les 12 tribus encampées autour du tabernacle. Dieu habitait au milieu d'eux. Quel est ce désir d'habiter au milieu de peuples qui sont pécheurs? Bien sûr qu'il y avait des limites, mais Dieu voulait habiter parmi nous. L'Ancien Testament promet à plusieurs reprises que Dieu était présent avec son peuple pour assurer le destiné dans son alliance. Le tabernacle et le temple étaient destinés à être des symboles de sa présence divine. Le terme pour tabernacle est Mishkan, qui vient de Shekan, qui signifie habiter ou le repos. ou demeurer. De cette racine est également venu le terme Shekinah, qui signifie Shekinah se référant à la présence de la gloire de Dieu. Dans la parole de Dieu, plusieurs fois, on voit le mot Shekinah, la gloire. La gloire qui représente la gloire de Dieu. L'enfant né devait être la Shekinah, le véritable tabernacle de Dieu. Dieu, il habitait en Jésus-Christ. Dans le baptême de Jésus-Christ, nous voyons que le Saint-Esprit est descendu sur lui dans la forme d'une colombe. Et la voix de Dieu qui dit, « Celui est mon fils bien-aimé. » Donc, de cette racine est également venu le terme Shekinah se référant à la présence de la gloire de Dieu. L'enfant né devait être la Shekinah, le véritable tabernacle de Dieu. Jean, dans son évangile, il dit, le verset 14, le premier chapitre, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de la vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Est-ce que nous voyons cette gloire qui est venue de Dieu, qui est Emmanuel, Dieu avec nous? On peut facilement utiliser le mot Emmanuel. Nous chantons, on vient Emmanuel. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Isaïe était l'instrument par lequel la parole du Seigneur annonçait que Dieu demeurerait parmi les hommes dans une incarnation visible de chair et de sang, plus intime et plus personnelle que le tabernacle ou le temple dans lequel Israël avait adoré. Dieu a voulu que nous sachions que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas abandonnés. Même le sage Salomon a demandé, en 2 Chroniques 6-18, « Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. » On peut lire le détail de la beauté de le temple de Jérusalem, le temple que Salomon a bâti. Mais Salomon dit, « Mais quoi ? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. » Dans sa grande grâce et sa grande miséricorde, Dieu a répondu par l'intermédiaire du prophète Isaïe qui a prédit que c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et ainsi nos cœurs chantent, « Ô viens Jésus, ô viens Emmanuel, Emmanuel, Dieu avec nous. » Le nom Emmanuel souligne la proximité que nous avons avec Dieu. La naissance de Christ a mis le Dieu infini et saint à la portée de l'homme fini et pécheur. Dieu est venu vivre avec nous pour que nous puissions vivre avec lui. Le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme afin qu'il puisse changer le Fils de l'homme, Fils des hommes, en Fils de Dieu. L'apôtre Jean, dans son épître, premier épître, chapitre 3, verset 1, il dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Voyons ce que Emmanuel a fait des pécheurs. Emmanuel, le Fils de Dieu, qui est venu habiter parmi les hommes, il a changé le Fils de l'homme comme fils, enfant de Dieu, fils de Dieu. Les fils et filles qui peuvent maintenant s'approcher avec audace du trône de grâce par notre Emmanuel. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre accès, une libre entrée dans le sanctuaire. Normalement, personne ne peut entrer dans le lieu très saint. Et seulement le souverain sacrificateur, une fois par an, et avec le sang de sacrifice. Et personne ne peut approcher. Même le souverain sacrificateur, une fois par an, il avait le cloche autour de lui. Et si on n'entendait pas le son de cloche, ça veut dire qu'il était frappé de mort. On devrait tirer par une corde. Et personne ne peut entrer pour enlever le cadavre. Dieu, souvent je pense qu'on oublie que Dieu il est saint. On pense que Dieu il est Emmanuel. On peut l'approcher comme on veut. On ne peut même pas éteindre notre portable. On oublie qu'on est dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Entrer avec audace, mais quelle audace! Mais nous avons l'entrée dans le lieu très saint par le sang de Jésus-Christ. On ne peut pas fouler aux pieds le sang de Christ en faisant n'importe quoi. Inhérent au nom Emmanuel est le grand mystère de la piété de celui qui a été révélé dans la chair. Le frère l'a lu ce verset et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Toutes ces choses, c'est un mystère, n'est-ce pas? Comment Dieu peut devenir un homme comme vous et moi, dans la chair et dans le sang? C'est 1 Timothée 3:16. Le Dieu éternel devenant homme du Messie promis, qui est à la fois divin et humain, pleinement Dieu et pleinement homme. Voilé dans la douceur, pour nous qu'il est devenu Dieu avec nous. C'est ainsi que le roi de gloire devint le serviteur des hommes. Nous voyons comment il est devenu un serviteur dans Philippiens chapitre 2. Et ainsi, Emmanuel parle de l'incarnation de Christ, Dieu dans la chair. Jean décrit la révélation d'Emmanuel écrivant que la parole s'est faite chair et habitée parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire Shekinah, gloire comme celle du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Maintenant, quelle implication ce merveilleux nom de Dieu Emmanuel, Dieu avec nous, a-t-il sur nous aujourd'hui, dans notre quotidien? On se demande parfois, où est Dieu quand se fait mal? J'ai lu un livre, où est Dieu quand il fait mal? Je pense à notre chère sœur et frère qui sont dans le lit de maladie. Et quand on souffre, on pose la question, où est Dieu? Où est ce Emmanuel qui a dit qu'il est parmi nous? Il habite avec nous, il est avec nous. Il est où, c'est Emmanuel? Il est notre Emmanuel, Dieu avec nous, à chaque étape de notre vie spirituelle. Car il a promis de nous abandonner jamais. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13, 5. Par exemple, dans Isaïe 43, Dieu donne une grande promesse de sa présence à Israël. On va lire Isaïe 43. On va lire à partir de verset 1 jusqu'à 11. Isaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te racheté. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et dans la version Louis II, c'est marqué « si ». Mais Darby, dans la version Darby, nous voyons que quand tu traverses, ce n'est pas une condition si tu traverses, mais quand tu traverses, même quand tu traverses dans les eaux, et Dieu dit que je serai avec toi. Ce n'est pas conditionnel, non? Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te racheté. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Voyez la relation personnelle qu'on peut avoir avec Dieu. Ce n'est pas un Dieu de mon voisin. Ce n'est pas un Dieu de cette église. Ce n'est pas de Dieu baptiste ou évangélique. Mais c'est mon Dieu. C'est mon sauveur. Et le verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils de pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Verset 8, qu'on fasse sortir le peuple aveugle et qui a des yeux et le sourd qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que le peuple se réunisse, que d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre la première prédiction. Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. On a envie de relire ce passage, n'est-ce pas? Et bourré de sens. Un Dieu si personnel pour... bien sûr, cette promesse était donnée à Israël, son peuple, et maintenant pour tous les rachetés, pour tous les sauvés. Et dans ce passage, nous lisons que je te rassemblerai de l'Occident, de l'Orient. Je pense que nous sommes la preuve que nous venons de très loin, n'est-ce pas? Et Dieu a rassemblé son peuple pour faire son peuple, ses sacrificateurs, pour le louer. Je serai avec vous, je serai Emmanuel pour vous. Lorsque vous traversez les rivières difficiles, vous ne vous noyerez pas. Lorsque vous traversez le feu de l'oppression, vous ne serez pas brûlés. Les flammes ne vous consumeront pas, parce que vous lui appartenez. Emmanuel vous préservera au milieu des épreuves par sa présence et sa puissance. Croyez-le, car c'est la parole de vérité. Souvenons-nous de trois jeunes Hébreux qui ont été jetés dans la fournaise ardente, parce qu'il préférait brûler plutôt de s'incliner devant l'idole dans le livre de Daniel. Donc ce n'est pas Dieu qui a véritablement sauvé ses enfants du feu. Leur position courageuse a abouti à la description par Nebuchadnezzar d'un quatrième homme dans le feu qui est comme le Fils de Dieu. Donc même si quand on passe par la difficulté, des problèmes, comme dans la fournaise, Dieu est avec nous. On peut compter sur ce Emmanuel. Ce n'est pas une qualité donnée pour nous permettre de supporter l'épreuve, ni un changement dramatique de circonstances qui rend la victoire possible, mais c'est la présence indéfectible d'une personne, le quatrième homme dans l'épreuve ardente, Jésus-Christ, notre Emmanuel. Paul, face à sa mort imminente, pouvait encore déclarer avec confiance dans certaines de ses toutes dernières paroles que l'Éternel s'est tenu avec moi et m'a fortifié. Regardez dans 2 Timothée 4, versets 16 et 17. 2 Timothée, chapitre 4, versets 16 à 17. L'apôtre Paul, nous connaissons, il était au point d'être exécuté. Mais regardons ce qu'il dit. L'Éternel s'est tenu avec moi et m'a fortifié. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule de lion. Même quand Étienne il était lapidé par la foule, il n'y avait personne à lui, mais il a vu le Seigneur Jésus rester tenant debout pour l'accueillir. Même si, au point de mort, notre Emmanuel il sera là avec nous, même si le monde il peut nous abandonner. Dans votre expérience quotidienne, connaissez-vous Jésus comme Emmanuel, Dieu avec nous? Comment était Dieu avec vous cette semaine? Comment Dieu est avec vous en ce jour? Beaucoup d'entre nous sont comme les enfants d'Israël en demandant, l'Éternel est-il parmi nous ou non? En Exode 17, 7, le peuple d'Israël, ils se sont posé la question, est-ce que l'Éternel est parmi nous ou non? Et il y a des moments dans leur vie, on commence à douter, on commence à poser les questions. Surtout pendant l'épreuve, on pose la question, est-ce que Dieu est véritablement avec moi ou il m'a abandonné? Le secret de la paix n'est pas un plan ou un programme, mais une personne, Emmanuel, Dieu avec nous. En effet, le merveilleux nom Emmanuel est un antidote à nos peurs, même si Moïse a rappelé à Israël en déclarant que l'Éternel est avec nous, ne crains pas. Lorsque le danger menace ou que la calamité frappe, nous pouvons être assurés de la présence personnelle d'Emmanuel pour nous reconforter et nous calmer. Ainsi, lorsque nous éprouvons des pensées craintives, nous nous rappelons l'affirmation de David. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta verge et ton bâton, ils me réconfortent. Donc, mes chers frères et sœurs, pour conclure, un grand commentateur, Matthew Henry, de 1706, il a écrit ainsi, « Par la lumière de la nature, nous voyons Dieu comme un Dieu au-dessus de nous. Par la lumière de la nature, nous voyons Dieu comme un Dieu au-dessus de nous. » En psaume 19, nous lisons, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » À la lumière de la loi, nous le voyons comme un Dieu contre nous. Premièrement, à la lumière de la nature, nous voyons Dieu comme un Dieu au-dessus de nous. Et deuxièmement, à la lumière de la loi, nous le voyons comme un Dieu contre nous. Et Romains 3, 19 dit, « Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Selon la loi, nous sommes tous coupables. Donc, nous voyons un Dieu qui veut nous punir, qui nous condamne. Et troisièmement, mais à la lumière de l'Évangile, nous le voyons comme Emmanuel, Dieu avec nous. Premièrement, nous voyons Dieu au-dessus de nous. Deuxièmement, nous voyons un Dieu contre nous. Et troisièmement, par l'Évangile, nous le voyons comme un Emmanuel, Dieu avec nous. Méditons sur son nom, Emmanuel. Et Spurgeon, il dit que John Wesley, un grand serviteur de Dieu, un grand prédicateur, et dans son lit de mort, le dernier mot qu'il a dit, le dernier mot qu'il a prononcé, c'est « Le meilleur de tout est Dieu avec nous. » Il n'a pas dit autre chose. Il a dit que ce qui est le meilleur, c'est la pensée. Ce n'est pas une pensée, c'est la vérité, que Dieu est avec nous. Que l'Esprit de Dieu nous permette de vivre avec ces mêmes paroles toujours dans nos cœurs. L'Évangile de Matthieu s'ouvre sur Matthieu 1, 23. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Et se termine par « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu, le dernier chapitre 28. Le premier chapitre, « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom de l'Emmanuel, et qui signifie Dieu avec nous. » Et se termine par « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelle assurance. Quelle assurance formidable. Il est avec nous par son esprit, dans sa parole, par ses soins providentiels et sa divine présence. Que Dieu soit loué. Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, qui est Emmanuel, Dieu avec nous. Quel réconfort que nous avons dans ce nom glorieux, ce nom merveilleux. Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous avons parti éloigné de toi. Seigneur, nous avons même oublié Dieu. Et nous étions plongés dans la ténèbre, dans le péché. Nous étions tous ennemis. Mais par ta grande miséricorde, Seigneur, par ta grâce, tu es venu nous chercher pour nous trouver où nous étions. Seigneur, comment nous pourrons te remercier pour ce don merveilleux, pour Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à concentrer sur ce que tu as fait et pas sur ce que nous allons faire pour fêter Noël avec ce monde. Seigneur, garde ton peuple, épargne ton peuple, Seigneur, de toute cette festivité de célébration inutile. Que nous, Seigneur, tout ce que nous disons de toi, tout ce que nous vivons, Seigneur, que ce soit pour un témoignage pour le Dieu que nous adorons, Emmanuel, Dieu avec nous. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous explique qui tu es et ce que tu as fait. Nous te glorifions, Père. Seigneur, que ton nom soit loué. Nous prions tout cela dans le bon nom de notre Seigneur, notre Sauveur, Emmanuel. Amen.